VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mardi 12 septembre 2018. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En Côte d'Ivoire, accrochage hier à Abidjan entre étudiants et forces de l'ordre.
Abidjan toujours, l'aile dure du FPI de l'ex-président Laurent Gbagbo demande le report des élections locales du 13 octobre prochain.
Au Mali, le célèbre contestataire Rasbat a mis fin à son accord politique avec le chef de l'opposition Soumaïla Cissé.
En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a écarté hier tout risque de sanctions internationales en cas de réforme agraire.
La Cour pénale internationale a dit ne pas être dissuadée par les menaces de sanctions de Washington en cas de poursuite d'Américains.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En Côte d'Ivoire, des affrontements ont eu lieu hier entre policiers et étudiants qui protestaient à Abidjan contre les frais de scolarité. Les étudiants ont affronté les forces de l'ordre aux divers points d'entrée de l'énorme campus de l'université Oufouébouani de Cocody, un quartier chaud d'Abidjan. Les jeunes ont lancé des pierres et perturbé la circulation dans toute la ville. Les forces de l'ordre déployées en masse ont riposté par de nombreux tirs de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes.
Toujours en Côte d'Ivoire, l'aile dure du Front populaire ivoirien fondé par l'ancien président Laurent Gbagbo a demandé hier le report des élections locales prévues le 13 octobre. Cette formation réitère sa demande de réforme de la commission électorale indépendante Nanette Talani.
Soucieux de la nécessité de sauvegarder la paix, le FPI exige le report sans condition des élections locales du 13 octobre 2018 et l'ouverture sans délai des discussions inclusives en vue de la réforme et de la mise en place d'une CEI consensuelle, a déclaré Abdramane Sangaré, le leader de cette aile du FPI, lors d'une conférence de presse à la résidence de Laurent Gbagbo. Il y a 10 jours, le PDCI qui vient de quitter la coalition au pouvoir avait aussi demandé un report du scrutin. Le boycott, c'est vraiment une exception dans notre parcours. Nous voulons aller aux élections et nous ferons tout pour aller à ces élections locales et présidentielles. Nous irons à ces prochaines élections et nous nous donnerons les moyens justement pour que la CEI soit réformée, a précisé Abdramane Sangaré. Cette tendance du FPI avait boycotté la présidentielle de 2015, puis les législatives et le référendum de 2016. L'élection présidentielle qui focalise toute la classe politique ivoirienne est prévue en 2020.
Au Mali, le mouvement du contestataire et homme de radio Rasbat a annoncé hier la fin de son accord politique avec l'opposant Soumaïla Cissé. Rasbat a soutenu ce dernier pendant la campagne ayant mené à la réélection au mois d'août du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta. Des détails avec Jacques Aristide.
Le collectif pour la défense de la République, dont Rasbat est la figure de proue, indique dans un communiqué que l'investiture d'Ibrahim Boubacar Keïta le 4 septembre dernier par la Cour suprême met fin au processus électoral. Par conséquent, le mouvement met un terme à l'accord politique conclu avec Soumaïla Cissé le 28 juin dernier, soit un mois avant le premier tour de la présidentielle. Le collectif ajoute avoir pris cette décision malgré les irrégularités graves qui, dit-il, ont émaillé le scrutin, dont des accusations de bourrage d'urne, d'achat de conscience et de tripatouillage des résultats. Le mouvement de Rasbat, qui a été vu plusieurs fois ces dernières semaines dans des marches de l'opposition, indique qu'il ne participera pas aux élections législatives à 2 tours, les 28 octobre et 18 novembre prochains, tant qu'elles seront organisées par le ministre de l'administration territoriale, Mohamed Hag Erlaf, reconduit dans ses fonctions dans le tout nouveau gouvernement du Premier ministre Soumaïlou Boubey Maïga. L'opposant Soumaïla Cissé a jusqu'ici refusé de reconnaître sa défaite.
En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a écarté tout risque de sanctions internationales s'il engage la réforme agraire. Cette réforme prévoit des expropriations sans indemnisation au profit de la majorité noire du pays. Le point avec Abdourahmane Dia.
Je n'ai aucune raison de croire qu'un quelconque pays punira l'Afrique du Sud si nous prenons des décisions qui sont constitutionnelles, légales et respecte le droit, a assuré Cyril Ramaphosa devant le Parlement. La minorité blanche, soit 8% de la population, possède 72% des fermes contre 4% pour les Noirs, qui forment 80% de la population, selon le président sud-africain. Il envisage de modifier la constitution pour autoriser des expropriations sans indemnisation. De nombreux Noirs applaudissent le projet, mais les Blancs s'en inquiètent. Le mois dernier, le président Donald Trump a dénoncé sur Twitter ces expropriations. L'Afrique du Sud appartient à tous ceux qui y vivent, elle n'appartient pas à Donald Trump, avait riposté Cyril Ramaphosa. Il a assuré hier aux parlementaires n'avoir reçu aucune communication officielle américaine sur son projet de réforme agraire.
En Libye, des roquettes se sont abattues pendant la nuit dans le périmètre du seul aéroport en service de Tripoli, la capitale. On ne signale ni victimes ni dégâts. L'aéroport de Mitiga, à l'est de la ville, avait été fermé du 31 août au 6 septembre en raison de combats entre groupes armés rivaux près de la capitale. Il avait rouvert le 7 septembre après la signature sous l'égide de l'ONU d'un accord de cessez-le-feu entre milices rivales impliquées dans les affrontements meurtriers au sud de Tripoli. Lundi, une attaque revendiquée par le groupe État islamique contre la Compagnie nationale de pétrole a fait 2 morts et 10 blessés dans le centre de Tripoli.
En Égypte, une commission judiciaire a annoncé hier le gel des avoirs d'un millier de membres des Frères musulmans, mouvement classé terroriste par le Caire, et aussi de ceux d'entreprises ou associations leur appartenant. Cette décision intervient près de 5 mois après la ratification par le président Abdel Fattah al-Sissi d'une loi à ce sujet. Samedi, un tribunal du Caire a confirmé la condamnation à mort de 75 personnes, dont des dirigeants des Frères musulmans, dans l'un des plus grands procès de masse depuis la révolte ayant secoué l'Égypte en 2011.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les Américains ont commémoré hier le 17e anniversaire des attentats terroristes du 11 septembre 2001 qui ont tué près de 3000 personnes à New York, en Virginie et en Pennsylvanie. Le président Donald Trump, en compagnie de sa femme Melania, a participé à une cérémonie au mémorial dédié aux héros de Shanksville en Pennsylvanie, près de l'endroit où s'est écrasé le vol 93, après que les passagers ont tenté de reprendre aux pirates de l'air d'Al-Qaïda le contrôle de l'appareil.
La Cour pénale internationale a dit hier ne pas être dissuadée par les déclarations de Washington, qui a menacé de sanctions ses juges et procureurs s'ils poursuivaient des Américains pour des crimes de guerre en Afghanistan. Le point avec Bagassi Koura.
La CPI, en tant que Cour de justice, continuera à faire son travail sans être dissuadée, a affirmé la Cour pénale internationale dans un communiqué précisant être une institution judiciaire indépendante et impartiale. Réagissant à la bruit, le Quai d'Orsay, le ministère français des Affaires étrangères, affirme que la France, avec ses partenaires européens, soutient la CPI, tout comme le ministère allemand des Affaires étrangères s'est dit dévoué à la CPI, surtout lorsqu'elle est sous le feu des critiques. Lundi, John Bolton, conseiller de la Maison Blanche en matière de sécurité nationale, a accusé cette juridiction d'être, je cite, inefficace, irresponsable et dangereuse. Il a dénoncé la possibilité d'une enquête contre des militaires américains ayant servi en Afghanistan, mais aussi d'éventuelles investigations contre Israël. Il avait annoncé une série de mesures de rétorsion possibles contre les juges et procureurs de ce tribunal basé à La Haye, aux Pays-Bas.
Une vaste zone de la côte est des États-Unis se prépare au passage de l'ouragan Florence, potentiellement dévastateur. Classé catégorie 4 avec des vents pouvant atteindre 215 km/h, plusieurs États de la côte est se préparent au pire, Morgan Kiriek.
L'ouragan Florence devrait atteindre jeudi les côtes américaines. Craignant des inondations majeures, les autorités ont déjà ordonné l'évacuation de plus d'1,5 million de personnes. Les États de Caroline du Sud, Caroline du Nord et de la Virginie sont les plus menacés. L'état d'urgence a été déclaré dans ces trois États, tout comme dans le Maryland et à Washington, la capitale fédérale. Cette mesure ratifiée par le président Trump permet aussi de débloquer des fonds fédéraux. Depuis lundi, les populations ont pris d'assaut les supermarchés pour faire le plein d'eau, de nourriture et autres produits de première nécessité. De nombreux habitants ont calfeutré les portes et fenêtres de leur logement. Entre août et septembre 2017, les trois puissants ouragans Harvey, Irma et Maria ont causé la mort de milliers de personnes et provoqué des milliards de dollars de dégâts dans la Caraïbe et le sud-est des États-Unis.
La province syrienne d'Idleb ne doit pas être transformée en bain de sang, a affirmé mardi, lors d'une allocution solennelle, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en demandant à la Russie, à l'Iran et à la Turquie de tout faire pour protéger les civils. Combattre le terrorisme n'absout pas les belligérants de leurs obligations imposées par le droit international, a ajouté M. Guterres. Une offensive militaire du régime syrien à Idleb déclencherait un cauchemar humanitaire sans précédent dans le conflit syrien déjà meurtrier, a-t-il estimé.
Ici aux États-Unis, maires, gouverneurs, élus et patrons du monde entier se retrouvent ce mercredi à San Francisco pour un sommet de 3 jours convoqué afin d'interpeller les dirigeants mondiaux sur la faiblesse de leurs engagements contre les gaz à effet de serre, voire leur abdication. Le sommet mondial pour l'action climatique, accueilli par le gouverneur démocrate de Californie, Jerry Brown, est le premier du genre. Et les responsables gouvernementaux n'en sont pas les têtes d'affiche. Rappelons que le président américain, le républicain Donald Trump, s'est lui retiré de l'accord de Paris.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Monirakiza.
Le Burkina Faso va construire 2000 éco-villages à travers le pays pour 1,77 milliard de dollars. Ce projet vise à faciliter l'accès durable aux énergies renouvelables et préserver l'environnement, améliorer l'accès au financement, renforcer la bonne gouvernance locale, améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle durable et promouvoir l'entrepreneuriat local. Le Rwanda veut devenir membre de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Son adhésion permettra d'attirer plus d'investisseurs privés, d'accroître sa coopération avec les principaux acteurs économiques mondiaux, mais Kigali doit respecter les normes internationales les plus strictes en matière de gouvernance, d'environnement des affaires et de relations internationales. L'OCDE compte aujourd'hui 36 pays membres. Si sa candidature est retenue, le Rwanda deviendra le premier État africain à intégrer cette organisation. La réforme agraire annoncée en Afrique du Sud a fait chuter de 32% les prix des terres agricole dans le pays. L'ANC au pouvoir a adopté une résolution qui autorise l'expropriation sans compensation et la redistribution des terres au profit de la majorité noire. Cette décision a accentué les craintes des investisseurs qui estiment qu'elle porte manifestement atteinte aux droits de propriété. Les fermiers blancs contrôlent environ 73% des terres arables parmi les plus productives du pays.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Démonstration espagnole hier soir en Ligue des Nations en Europe.
Ah oui, que cette Coupe du Monde en Russie semble bien loin. L'Espagne a trouvé un second souffle 2 mois après son mondial raté en battant sévèrement 6-0 la Croatie, vice-championne du monde, la Croatie de Luka Modric, qui a donc chuté lourdement lors de cette deuxième journée de la Ligue des Nations. Le joueur madrilène Asensio, homme du match, a noté également que la Belgique est en grande forme puisque les Diables Rouges se sont imposés en Islande 3-0. Romelu Lukaku et Eden Hazard, buteurs, sont dans le rythme. Les autres matchs hier soir, la Bosnie-Herzégovine qui bat l'Autriche 1-0, la Finlande qui domine l'Estonie sur le même score, la Hongrie qui domine la Grèce 2-1, match nul 0-0 entre la Moldavie et la Biélorussie et la victoire du Luxembourg contre Saint-Marin 3-0.
Et des matchs amicaux.
À Osaka, le Japon qui bat le Costa Rica 3-0, le Kenya domine le Malawi 1-0, même score pour la Zambie qui s'impose face au Gabon à Libreville. A noté que les Panthères jouaient sans leur buteur et capitaine Pierre-Emerick Aubameyang qui était parti dès lundi soir pour regagner l'Europe. On rappelle que Pierre-Emerick Aubameyang avait permis de sauver le Gabon en égalisant face au Burundi le week-end dernier. 1-0. Le score final 0-0 entre l'Argentine et la Colombie, c'était dans le New Jersey, ici aux États-Unis, tandis que le Brésil a puni sévèrement le Salvador dans le Maryland. Une victoire 5-0. Neymar a inscrit le premier but sur penalty.
Et le Mexique se mesurait aux États-Unis à Nashville. Les États-Unis ont gagné 1-0. vers une nouvelle coupe pour les clubs européens.
L'UEFA a donné son feu vert à la création à partir de 2021 d'une troisième coupe européenne ouverte à 32 clubs, annonce d'André Agnelli, le président de la Juventus Turin et de l'Association européenne des clubs. Il n'existe pour le moment que deux coupes européennes des clubs, la Ligue des champions et la Ligue Europa, qui a remplacé en 1999 la Coupe des vainqueurs de coupe. La création de cette nouvelle compétition, voulue par les petits championnats et les petits clubs, doit encore être officiellement validée par le comité exécutif de l'UEFA.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, fausse alerte à Kisangani et à Goma sur d'éventuels cas d'Ebola. Quelques décès suspects ont semé la panique dans les deux villes, mais les échantillons prélevés se sont révélés négatifs. Pendant ce temps, les autorités sanitaires continuent leur campagne de sensibilisation auprès des populations à Beni, zone où sévit l'épidémie. Eddy Isango a joint dans le Nord Kivu le coordonnateur de la riposte à Ebola, le docteur Bart Nyoloko.
On a plus de cas, quasiment, on a 0 cas, 1 cas. La courbe, si vous voyez, quand on a démarré la réponse, c'était très élevé. Ces résultats-là, vous ne pouvez pas les avoir si vous ne coopérez pas avec la grande partie de la population. Maintenant, il y a quelques résistances, il y a quelques personnalités politiques et autres, sociales, qui influencent des petits groupes. Il y a des acteurs qui manipulent, qui trouvent que c'est l'occasion d'avoir l'argent, c'est l'occasion de se positionner, c'est l'occasion de préparer sa campagne électorale. Nous sommes conscients que ces petits groupes ont retardé la réponse, mais je mettrai à des tout celui qui dirait que la grande partie de la population n'est pas consciente de l'existence de cette maladie. C'est une maladie qui a tué beaucoup de gens ici. Et ça a créé des paniques. Il y a des familles qui ont pratiquement vu les gros de leurs membres être décimés. Évidemment, quand quelqu'un est à Goma, il est moins sensible que quelqu'un qui est à Beni ou quelqu'un qui est à Mandina. Mais la maladie est là, elle est là. L'épidémie, Ebola a tué ici. Nous avons des gens qui ont été à l'hôpital et qui sont sortis. Plus d'une vingtaine guéris.
Qu'est-ce que ces gens-là disent à la population?
Il y a des politiciens qui ont déclaré que Ebola n'existe pas. Ils l'ont dit à la télé, ils l'ont dit à la radio. Et quand un élu le dit, il y aura toujours une frange de gens qui croient en lui. Et ça, ça nous a pris beaucoup plus de temps de dénuer cela, de défaire cette désinformation qui ne nous paraît pas très responsable.
Quel rôle jouent les traditions, les coutumes ou même les croyances dans cette résistance?
Au début, on a eu un grand problème. Pendant que nos équipes se mettaient en place, il y a eu des frottements entre les coutumes et les équipes d'entraînement. Juste au début, et que nous avons pu fermer rapidement, puisque dans tous les cas, en gros, c'est quasi les mêmes coutumes que nous avons dans beaucoup de milieux où il ne faut pas enterrer les gens dans la nuit. Les gens étaient encore paniqués de voir les sacs mortuaires. Ils n'avaient jamais vu et emballé les gens dans les sacs mortuaires. Tout cela, au début, c'était un choc pour la population. Si vous aviez un parent et vous vous dites qu'il n'est pas éclairé pendant un jour ou deux jours, on doit l'enterrer. Quand vous devez aller l'enterrer, on vous demande de ne pas toucher les corps. On vous demande de remettre les corps d'abord dans un sac, après même dans un cercueil. Et ça, ce n'est pas vraiment spécifique à la communauté ici. Tout ça, on l'a vécu partout. Et même à l'Afrique de l'Ouest, ça a été noté, toutes ces résistances-là. Mais nous y travaillons. Nous avons approché les chefs coutumiers, les chefs religieux, la notabilité. Et nous continuons à travailler.
Docteur, qu'est-ce qui s'est passé à Kisangani? Et même à Goma, il y a eu panique, on a parlé des cas et même des décès. Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Ce n'était que l'alerte et nous avons fait venir les échantillons que nous avons analysés, et moi pour Kisangani, et tous les trois se sont avérés négatifs.
Le docteur Bart Nyoloko, coordonnateur de la riposte à Ebola à Beni.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
En République centrafricaine, l'amnistie générale demandée par les groupes armés continue de susciter des débats dans le pays. Nombreux sont ceux qui pensent qu'accorder l'amnistie aux hommes armés, c'est faire la promotion de l'impunité. Sur place à Bangui, Freeman Sipila pour VOA Afrique.
même si officiellement on annonce que la question d'amnistie a été mise en réserve lors de la rencontre des 14 groupes armés avec les experts de l'Union africaine fin août dernier à Boire dans le nord-ouest de la République centrafricaine. Plusieurs sources font savoir qu'elle demeure bel et bien dans la liste des revendications. À Bangui, les organisations de défense des droits de l'homme n'entendent pas baisser la garde. Joseph Bindoumi, président de la FCDH, Ligue centrafricaine des droits de l'homme.
On dit le chef de l'État, la constitution lui a accordé le droit d'amnistie. Non, le chef de l'État n'a pas un droit d'amnistie. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Le chef de l'État a le droit de grâce. La grâce intervient lorsque quelqu'un est déjà passé en justice, a déjà ramassé sa condamnation et que le chef de l'État peut intervenir pour dire, bon, moi, chef de l'État, vous avez été condamné à 20 ans, mais je pense que je peux réduire votre peine, je peux vous gracier, etc.
Cette position des organisations des droits de l'homme est aussi partagée par certaines formations politiques comme le Conseil des leaders politiques et sociaux. Pour cette plateforme, accéder à cette revendication est une prime à l'impunité. Jean-Serge Wafio, son coordonnateur.
Le CNPS rappelle la recommandation forte du Forum national de Bangui qui font l'option de l'impunité zéro pour les responsables des crimes contre la population.
Pour les groupes armés, tous ceux qui sont contre l'amnistie réclamée sont contre le bien-être des centrafricains, donc des ennemis de la paix. Béranger Ludovic Lamaka est porte-parole du mouvement anti-Balaka.
Les organisations de défense des droits de l'homme, c'est des gens qui interviennent comme des médecins après la mort. Mais quand il y a la crise, eux, ils ne crient pas. Mais après, c'est là qu'ils commencent à porter leur blouson pour venir crier ou dénoncer. L'heure n'est pas la dénonciation. Il est aujourd'hui temps d'agir et de remettre la paix sur toute l'étendue du territoire. Aujourd'hui, ce que nous recherchons, c'est la paix, la réconciliation nationale.
Non, vous voulez dire que rechercher aujourd'hui la paix, c'est aussi accepter l'amnistie?
Oui, c'est accepter l'amnistie au nom du pardon. Pour que la paix puisse revenir totalement sur toute l'étendue du territoire national en RCA.
Comment la justice réagit-elle à ce débat qui défait la chronique dans le pays? Selon Eric Didier Tambo, procureur général près la cour d'appel de Bangui, cette question relève de la compétence des pouvoirs exécutifs et législatifs.
Ce que nous faisons, nous rendons la justice au nom du peuple centrafricain. Le président est élu par le peuple centrafricain et les députés sont les représentants du peuple centrafricain. Parce que l'amnistie, la loi d'amnistie, c'est le Parlement qui est habilité à le prendre. Si le peuple pense que, avec tout ce que les gens ont fait, on peut leur accorder le pardon à travers l'Assemblée nationale, on peut leur donner l'amnistie. Ça ne relève pas du pouvoir judiciaire, mais ça relève du pouvoir politique, donc de l'Assemblée nationale et du pouvoir exécutif.
Alors que l'inquiétude monte au sein des associations des victimes de la crise, certains centrafricains s'interrogent sur le rôle de la Cour pénale spéciale si l'amnistie arrivait à être accordée aux auteurs de crimes. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Le chanteur et député Bobi Wine a pu finalement, au début du mois de septembre, quitter l'Ouganda pour les États-Unis. Inculpé de trahison, il avait été remis en liberté après une arrestation à l'aéroport d'Entebbe, alors qu'il tentait déjà de quitter le pays pour soigner des blessures à l'étranger. Pourquoi le chanteur et député ougandais suscite-t-il autant de passion? À Kampala, reportage de Patricia Huon.
Free Bobi Wine, libérer Bobi Wine. L'inscription à la peinture blanche se répète tous les quelques mètres sur les murs de Kamocha, un quartier pauvre de la capitale ougandaise Kampala. C'est dans ces ruelles qu'a grandi Robert Chakulani Sentamu, mieux connu sous son nom de scène, Bobi Wine. En se lançant en politique, la star locale de l'Afrobeat est devenue le porte-parole d'une jeunesse en mal de héros auquel s'identifier. Bachir, 20 ans, est producteur dans un studio d'enregistrement créé par son idole.
Ces chansons donnent de l'espoir, ils parlent de la vie dans le ghetto, des difficultés, de comment on peut s'en sortir. Ces paroles, j'ai mis ça en connecté. Même avant, les chansons de Bobi Wine étaient déjà politiques. Le président ne comprend pas les jeunes. Nous voulons une nouvelle génération, quelqu'un qui attend nos pleurs.
Celui qu'on surnomme ici le président du ghetto s'est fait un nom sur ses prises de position engagées. Dans ses chansons, il dénonce les dérives du pouvoir, la corruption, les injustices. L'année dernière, Bobi Wine saisit l'opportunité d'une élection partielle pour se présenter comme candidat indépendant. Il est élu.
En Ouganda, trois quarts de la population a moins de 30 ans. La génération née alors que le président Yoweri Museveni était déjà au pouvoir n'a pas connu la guerre. Plus que de stabilité, elle rêve de changement. Anna Adeke est Badjou, 26 ans, et députée nationale des jeunes à l'Assemblée.
Bobby Wine is like a breath of fresh air.
Bobby Wine, c'est une bouffée d'air frais. Jusqu'ici, même l'opposition était dominée par des gens qui avaient combattu aux côtés de Museveni. Mais Bobby Wine est différent. Il est jeune, il est dynamique, il a galéré dans sa vie, il a fait de la musique, a encouragé les jeunes à retourner à l'école. Son histoire, c'est notre histoire.
La popularité du chanteur inquiète les autorités qui répondent de manière brutale. Mais pour Yvan Okuda, journaliste et commentateur politique, il ne faut pas sous-estimer leur contrôle.
Bobby Wine a attiré une énorme attention de la part des médias locaux et internationaux, mais le président actuel sait comment utiliser la violence, la machine politique lors des élections. Il détient l'argent aussi. Pour renverser les statu quo, il faudrait plus que des réseaux sociaux. Cela demanderait énormément de préparation et d'organisation.
Mais Bobby Wine est déterminé à revenir en Ouganda dès qu'il aura repris des forces et le rapport devenu député n'a pas fini d'agiter la scène politique du pays. Patricia Huon à Kampala pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Ici aux États-Unis, des entreprises produisent une gamme de produits halal, des aliments préparés conformément à la loi islamique et au Coran. C'est notamment le strict respect de la manière dont on égorge un animal jusqu'à la consommation. Bien que de nombreux musulmans préfèrent manger de la viande halal, la demande croissante de produits halal n'est pas nécessairement liée à cette seule raison. Abdelrahman Dia nous en dit plus.
Ce magasin halal situé dans l'État de Virginie est l'un des nombreux du genre qui attirent les clients pour s'approvisionner en produits de leur pays d'origine et en viande halal.
C'est une obligation religieuse. Alors nous préférons manger de la viande halal ici.
Mes enfants et moi mangeons tous de la viande halal. Excepté mon mari.
L'augmentation de la population musulmane aux États-Unis a multiplié la demande de viande halal. Néanmoins, d'autres raisons renforcent ce marché. Haroun Latif de la société Dinar Standards mène des recherches sur le marché halal américain.
Tout d'abord, la consommation de viande halal augmente parce qu'il y a 5,8 millions de musulmans aux États-Unis. Et plus largement, beaucoup de non-musulmans consomment également de la viande halal.
Un boucher local dit avoir vu une augmentation des ventes de viande halal et ses clients se diversifient.
Même les Américains locaux aiment vraiment la viande halal, surtout les chevreaux et les agneaux.
Latif dit que beaucoup d'Américains achètent de la viande halal sans même s'en rendre compte.
La viande halal est disponible dans de nombreux supermarchés comme Costco et Walmart, mais aussi dans des magasins indépendants locaux. Elle n'est pas toujours étiquetée comme étant halal, mais dans certains cas, ils craignent une réaction des clients non musulmans.
Les experts disent que plus les Américains découvrent la viande halal, plus leur engouement pour cette viande augmente. Certains affirment que de bons aliments halal devraient être plus facilement disponibles dans les restaurants et suggèrent qu'il faut également sensibiliser les consommateurs à travers des expositions de produits halal pour ceux qui ne les connaissent pas.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de la rentrée scolaire dans les zones affectées par l'épidémie d'Ebola en RDC.
Alors qu'un syndicat d'enseignants souhaitait un report de la rentrée des classes pour éviter la propagation de la maladie, la reprise est effective sur recommandation du ministère de la Santé.
Pour en parler, nous recevrons Palou Cook Ghislain, enseignant et syndicaliste. Il nous dira pourquoi son syndicat militait pour un report de la rentrée.
Nous écouterons un avis contraire avec le docteur Baté Ndjoloko du ministère de la Santé. Nous écouterons aussi les avis d'un responsable d'établissement, d'un parent et d'un élève.
Votre Santé, Votre Avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Salut les amis, ici Roger Montiou de RM Show sur VOA Afrique. Chaque jour entre 20h à 21h, temps universel, notre sujet de la semaine. Est-il important ou nécessaire d'avoir une classe d'éducation sexuelle pour les jeunes? Ou mieux vaut les laisser découvrir d'eux-mêmes? Appelez-nous 001 202 205 2633 pour participer en direct. Ou envoyez-moi un message sur WhatsApp ou Viber. Écrivez-moi au 001 703 350 37 31. Suivez-nous aussi en live sur notre page Facebook VOA Afrique ou sur notre site internet www.voafrique.com. RHO, chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.